Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poésie no te ayuda a vivir, haced otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesia non vi aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Lukuni Zhengwei Shige, Bunan Zhang Shengwu, Ben Jintai, Najo Ting, Wang Li Shige.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas?
Pourquoi pas? Pourquoi pas Robert Desnos? Robert Desnos est l'invité d'honneur de cette série d'émissions. C'est la première, on va lui consacrer 4 émissions entières. Qui est Robert Desnos? Ce poème de la fourmi de 18 mètres que beaucoup d'entre nous, ont dû apprendre dans les écoles maternelles. Eh bien, c'est un texte qui est écrit vers la fin de la vie de Robert Desnos. On y reviendra, peut-être on peut entendre un double sens, c'est un texte qui est écrit en 1943, pendant l'occupation. Qui est Robert Desnos? Robert Desnos est une comète dans le XXe siècle, il est né avec le siècle. Il est né avec le siècle, c'est un poète, c'est aussi un peintre, c'est aussi un journaliste, c'est un homme de radio, un pionnier de la radio. C'est un homme, c'est avant tout un homme qui cherche, un homme libre, un homme d'une immense invention. Et qui est toujours resté fidèle à lui-même. Voilà. Il naît donc en 1900 dans le quartier des Halles à Paris. Son père est mandataire aux Halles, il fait commerce de volailles. Et Robert Desnos, enfant, est bercé par toute l'atmosphère populaire de ce quartier. Il grandit au milieu des charretiers, des livreurs. Et aussi dans ce centre de Paris, parce que il habite donc
la rue Saint-Martin.
La rue Saint-Martin, le quartier Saint-Méry et le quartier de son enfance. Et il va voir, enfin, l'éclosion de ce siècle. Il va voir tous les grands progrès technologiques. Il va être fasciné par les premières expositions universelles. Donc enfant. Il a une grande sœur, il grandit entre un père qui est quelqu'un d'assez autoritaire, plein d'énergie, et une mère qui est très effacée, elle au contraire. Et donc il va parcourir la moitié de ce siècle, puisque, il faut le dire aussi, Desnos est mort en 1945 en déportation, et il est un de nos 3 grands poètes, avec Max Jacob et Benjamin Fondane, à mourir de cette façon, tout simplement parce qu'il a été résistant et arrêté vers la fin de la guerre. Donc il naît dans ce quartier, et les choses qui forgent son enfance, c'est d'abord les récits. Il va se passionner, c'est un enfant très rêveur, rêveur mais colérique aussi, pas facile à domestiquer, d'ailleurs de moins en moins facile à domestiquer, c'est un rebelle déjà, très vite. Alors il vit beaucoup dans l'imaginaire, il vit, il raconte ses premiers voyages, nageant sur le tapis de sa chambre, imaginant les îles que sont les chaises, les continents lointains que sont la commode, et puis petit à petit il va se passionner pour les romans d'aventure, Fantomas,
littérature populaire,
voilà, Ponson du Terral. Il va également dévorer les romans de Victor Hugo. Victor Hugo va avoir une importance énorme pour lui, et petit à petit il va fuir l'école, il va la fuir à travers l'écriture, à travers la poésie. Et puis, très très vite, il va s'opposer à cette famille qui veut faire de lui un mandataire royal comme son père. Alors il voit autour dans cette vie quelques événements, dans cette vie d'enfant, quelques événements le frappent, comme le grand incendie du central Gutenberg, je crois. Il y a toute cette vie populaire, mais il y a également la présence ancienne des fantômes qui vivent dans le quartier Saint-Méry, Nicolas Flamel, tous les hommes du Moyen-Âge.
Les alchimistes,
voilà. Il va être passionné par les grandes aventures de l'esprit. On peut dire que, pour résumer les choses, c'est un grand aventurier de l'esprit.
Au coin de la rue de la Verrerie et de la rue Saint-Martin, il y a un marchand de mélasse. Un soir d'avril, un quart d'heure de matelas glissa, tomba, éventra l'oreiller qu'il portait. Cela fit voler des plumes plus haut que le clocher de Saint-Méry. Quelques-unes se collèrent au baril de mélasse. Je suis repassé un soir par là, un soir d'avril. Un ivrogne dormait dans le ruisseau et la même fenêtre était éclairée. Du côté de la rue des juges consuls, chantaient des gamins. Là, devant cette porte, je m'arrête. C'est de là qu'elle partit. Sa mère, échevelée, hurlait à la fenêtre. 13 ans, à peine vêtue, des yeux flambants sous des cils noirs, les membres grêles. En vain, le père se leva-t-il et vint à pas pesants, traînant ses savates, attester de son malheur le ciel pluvieux. En vain, elle courait à travers les rues. Elle s'arrêta un instant rue des Lombards, à l'endroit exact où par la suite passa le joueur de flûte d'Apollinaire. Du cloître Saint-Méry naissaient des rumeurs. Le sang coulait dans les ruisseaux, prémices du printemps et des futures lunaisons. L'horloge de la Gerbe d'Or répondait aux autres horloges, au bruit des attelages roulant vers les halles. La fillette, à demi nue, rencontra un pharmacien qui baissait sa devanture de fer. Les lueurs jaunes et vertes des globes brillaient dans ses yeux, les moustaches humides pendaient.
« Que fais-tu, la gosse, à 7 heures dans la rue ? Il est minuit. Allez, va te coucher. »
Dans mon jeune temps, j'aimais traîner la nuit, j'aimais rêver sur des livres la nuit. Où sont les nuits de mon jeune temps? Le travail et l'effort de vivre m'ont rendu le sommeil délicieux. C'est d'un autre amour que j'aime la nuit.
Un peu plus loin, au long d'un pont, un régiment passait pesamment.
Mais la petite fille écoutait le pharmacien. Liabeuf, son fantôme, maudissait les menteurs du côté de la rue Aubry le Boucher.
Va te coucher, petite, les horloges sonnent minuit. Ce n'est ni l'heure ni l'âge de courir les rues.
3 vieillards parlaient sous le pont. L'un disait oui et l'autre non.
Eh oui, le temps est court.
Non, le temps est long.
Mais le temps n'existe pas, dit le troisième.
Alors parut la petite fille. En sifflotant, le pharmacien s'éloignait dans la rue Saint-Martin et son ombre grandissait.
Bonjour, petite.
Dit l'un des vieux.
Bonsoir.
Dirent les deux autres.
Ah, vous sentez mauvais, dit la petite.
Le régiment s'éloignait dans la rue Saint-Jacques.
Une femme criait sur le quai.
Sur la berge, un oiseau blessé sautillait.
Vous sentez mauvais, dit la petite.
Nous sentirons tous mauvais, dit le premier vieillard, quand nous serons morts.
Vous êtes mort déjà, dit la petite, puisque vous sentez mauvais. Moi seul ne mourrai jamais.
On entendit un bruit de vitres brisées. Presque aussitôt retentit la trompe grave des pompiers. Des lueurs se reflétaient dans la Seine. On entendit courir des hommes, puis ce fut le bruit de la foule. Les pompes rythmaient la nuit. Des rires se mêlaient aux cris. Un manège de chevaux de bois se mit à fonctionner. Chevaux de bois, cochons dorés, oubliés sur le parvis. Depuis la dernière fête. Charlemagne rougeoyait. Impassible, les heures sonnaient. Un malade agonisait à l'hôtel Dieu. L'ombre du pharmacien qui s'éloignait vers Saint-Martin-des-Champs épaississait la nuit. Les soldats chantaient déjà sur la route. Des paysans, pour les voir, collaient aux fenêtres leurs faces grises. La petite fille remontait l'escalier qui mène de la berge au quai. Une péniche fantôme passait sous le pont. Les trois vieillards se préparaient à dormir dans les courants d'air au bruit de l'eau. L'incendie éventrait ses dernières barriques. Les poissons morts au fil de l'eau, flèches dans la cible des ponts, passaient avec des reflets.
Tintamarre de voiture, tintamarre.
Oh, petite fille, ta robe tombe en lambeaux, on voit ta peau.
Où vas-tu, petite fille?
Où vas-tu, petite fille?
C'est encore toi, le pharmacien, avec tes yeux ronds comme des billes.
Détraqué comme une vieille montre, là-bas, sur le parvis Notre-Dame, le manège hennissait sa musique. Des chevaux raides se cabraient au carrefour. Hideusement nus, les trois vieillards s'avançaient dans la rue.
Au coin de la rue de la Verrerie et de la rue Saint-Martin, une plume flottait au ras du trottoir. Avec de vieux papiers chassés par le vent, un chant d'oiseau s'éleva au square des innocents, un autre à la tour Saint-Jacques. Puis il y eut un long cri, rue Saint-Bon, et l'étrange nuit s'effilocha sur Paris.
Michel Arbatz qui chante et dit Robert Desnos. Michel qui est avec nous ce soir et qui pilote ce bateau ivre descendant un fleuve impassible nommé Robert Desnos.
Oui, impassible, pas toujours, puisque donc on pourrait imaginer dans ce texte de Desnos peut-être ce qu'il voulait être à travers cette petite fille qui court à travers tout Paris. Et Desnos va se révéler un enfant assez rebelle, puisqu'il est mauvais élève. Ses notes sont un peu catastrophiques, ça commence à poser des problèmes avec son père. Vers 14-15 ans, ou même un peu, oui, à 15 ou 16 ans, on décide de l'envoyer en Angleterre, comme dans un collège où il pourra étudier à la fois l'anglais et où ça sera bon à la fois de l'isoler de son père et de le soumettre à une règle un peu plus stricte. Voilà. Parce que depuis, Desnos, l'adolescent Desnos, passe son temps à lire des romans, il commence même à écrire quelques poèmes. Et donc, on ne voit pas du tout d'un bon œil dans sa famille ce destin qu'il caresse. Donc, on l'envoie en Angleterre. Et alors, ce voyage en Angleterre le frappe par deux choses. La première, c'est le spectacle d'une fessée donnée en public par une institutrice à un de ses camarades, dont il dit que c'est de ce spectacle que viendront ses premiers émois. Et cette scène, cette espèce de scène primitive un petit peu, on la retrouvera plusieurs fois dans ses textes, dans ses poésies. Et en tout cas, il y a quelque chose qui laisse à présager une sorte d'attirance pour des rapports, en tout cas guerriers ou parfois masochistes avec les femmes. En tout cas, lui-même reparle très souvent de cette scène, et puis il y a des témoignages qui parlent de cette obsession d'un rapport un petit peu violent. Ça, c'est une des choses qui va le marquer. Oui, Claude.
Un été 1914. Non, je pense aussi à cette chanson de Nougaro, Un été, qui évoque aussi l'enfance et presque ce fait-là.
Tiens, oui, mais bon. Voilà, tout à fait, oui. Va-t-il prendre la main à sa camarade, comme le fait Claude Nougaro. Alors, il y a ça, et puis l'autre chose qui va le frapper, il va se passer aussi que 14, c'est le début de la guerre. Au retour de ce voyage en Angleterre, eh bien, il passe par Dunkerque, et là, il voit les premiers blessés qui reviennent du front, les blessés anglais, les soldats anglais. Et là, c'est un spectacle absolument bouleversant pour cet adolescent de voir des gens, à la fois aussi bien des cadavres que des gens très blessés qu'on rapatrie. Et donc il va vivre toute cette guerre de 14 complètement en dehors de la propagande, parce que évidemment, le père, lui, est dans des associations de mobilisation pour le front patriotique. Lui se tient complètement à l'écart de cette chose. Il décide d'occulter complètement cette espèce de folie, un petit peu d'exaltation meurtrière et patriotarde, et il commence à écrire, il écrit de plus en plus. Il écrit des choses qui sont assez classiques, mais déjà il manie très bien l'alexandrin, influencé par Hugo, mais il découvre également les textes de Laurent Taillade, et il découvre surtout Apollinaire, par hasard, il achète un bouquin d'Apollinaire, et c'est un peu une révélation pour lui. Il écrit, mais déjà, il y a une sorte de liberté de rêve dans tous ses textes. Alors, le texte qu'on va entendre après, évidemment, est écrit beaucoup plus tard, mais disons qu'il parle de cette ambiance meurtrière, de cette obsession, cet esprit revanchard de l'époque, et également la chanson qui suivra, puisqu'on a choisi de passer une belle chanson de Damia qui parle de la guerre.
Ne poussez pas, ne poussez pas! Tas de salauds.
Oh, espèce de vache avec vos mamelles pendantes, avez-vous fini de pousser?
Du calme, il y en a pour tout le monde.
Regardez-moi cette putain avec ses airs de marquise.
Tu pu.
C'est criminel d'emmener des enfants dans cette foule.
Si on les emmène, c'est qu'on peut pas faire autrement. Ça va durer encore longtemps?
Madame, vous perdez votre culotte.
Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et puis d'abord, je vous emmerde.
C'est un enterrement. Un bel enterrement.
Tout le monde veut en être.
On se piétine pour entrer au cimetière. Mais il y aura de la place pour tout le monde.
Nous sommes maîtres de la terre, nous nous croyons des presque dieux, et pan, le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes? Des pouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Nous nageons tous dans la bêtise et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises, sous la chemise il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. Écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un cri, vive la vie, nous sommes tous des assassins. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous et crient au fou, au fou. C'est toute la terre qui gronde, bonne saison pour les volcans, on va faire sauter le monde, cramponnez-vous. Tout fout le camp. Et là-haut, les corbeaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent comme des fous et crient à nous, à nous. La vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil dehors?
Coco, perroquet vert de concierge podagre, sur un ventre juché, ses fielleux monologues, excitant aux abois la colère du dogue, fait surgir un galop de zèbre et d'onagre. Cauchemar, son bec noir plongera dans un crâne, et deux grains de soleil, sous l'écorce paupière, saigneront dans la nuit sur un édredon blanc. L'amour d'une bigote a perverti ton cœur. Jadis, gonflant ton col ainsi qu'un tourtereau, Coco, tu modulais au ciel de l'équateur de sonores clameurs qui charmaient les perruches. Vint le marin sifflant la polka périmée, vint la bigote obscène et son bonnet à ruche, puis le perchoir de bois dans la cage dorée. Les refrains tropicaux désertèrent ta gorge. Rastaquer, paré de criards de couleur, ô général d'empire, ô métèque épatant, tu simules pour moi, grotesque voyageur, un aigle de lutrin perché sur un sextant. Mais le cacatoès observait le persil, le beefsteak trop saignant, la peau bouille et la nuit, tandis qu'un chien troublait mon sommeil et la messe qui par rauques abois prétendait le funeste effrayait le soleil, la lune et les étoiles. Coco, cri avorté d'un coq paralytique, les poules en ont ri, volatiles tribades. Des canards ont chanté qui se sont crus des cygnes. Qui donc n'a pas voulu les noyer dans la rade?
Robert Desnos qui écrit cette ode à Coco un peu plus tard, évidemment, quand il aura une vingtaine d'années. Je crois que c'est paru en 21 ou 22.
19.
En 19, en donc 19. Il a 19 ans, merci. Il a 19 ans et on va revenir un tout petit peu en arrière. Rien ne va plus dans la famille Desnos. Desnos collectionne les mauvaises notes. Il a déclaré à sa famille qu'il veut être poète. Scandale. Et là, le père lui dit clairement, eh bien, si tu veux être poète, tu vas vivre ailleurs. Je ne te reverrai sous mon toit que quand tu sauras te débrouiller tout seul et gagner ta vie. Donc Desnos va et est donc chassé du domicile familial, mais enfin, bon, Madame Desnos, mère, est quand même une personne qui essaye d'arrondir les angles. On lui donne une chambre de bonne au dernier étage de l'immeuble où habite la famille, et il doit se débrouiller pour manger. Donc il va commencer à faire des petits boulots, à coller des étiquettes sur des colis de médicaments chez un pharmacien. Enfin, il vivote, et là, il va commencer à hanter le quartier latin, à se balader, et il fait une rencontre extraordinaire, c'est la rencontre d'Henri Janson, qui va devenir le grand dialoguiste et scénariste qu'on connaît. Mais Janson a le même âge que lui à l'époque, et ils sont tous les deux, ils deviennent des copains inséparables. D'ailleurs, cette amitié durera toute la vie. Donc ils vivent, comme ils disent, de café au lait et de saucissons, les cafés au lait étant payés par les quelques deniers que Desnos a gagnés, et les saucissons étant piqués chez les charcutiers du coin. Et puis, ils traînent au Luxembourg, et là, ils sont attirés un jour par une sorte d'attroupement autour d'une femme qui parle fort et qui dit ses idées anarchistes. Il s'agit de Rirette Maître Jean, qui est d'ailleurs la compagne de Victor Serge, et qui lui-même faisait partie de la bande à Bono. Alors, il est fasciné certainement pas par la violence, mais en tout cas par la charge de révolte que porte cette femme et que porte cette bande à Bono, hein, qui est connue pour avoir fait des braquages sanglants quelques années auparavant. Donc, Janson et Desnos vont se rencontrer dans leur amitié pour écrire, et surtout dans une grande révolte, parce que on sort de la guerre de 14, il faut pas l'oublier. Janson et Desnos font les 400 coups dans le quartier latin. Ils s'amusent, par exemple, à aller dans tous les immeubles bourgeois, à rentrer dans les porches, à vider les poubelles en criant « Vidangeur !» parce qu'à l'époque, les éboueurs s'appelaient Vidangeur, et ils se faisaient ouvrir les portes de cette manière. Ils se faisaient ouvrir les portes en criant « Vidangeur !» et ils vidaient dans la cour les poubelles. Ou encore, Anne Egger, qui a fait paraître une très belle biographie de Desnos il y a un peu plus d'un an, raconte cette histoire où Desnos et Janson vont à la librairie catholique de Saint-Sulpice, commencent à massacrer, foutre en l'air tous les livres religieux, les crucifix qui sont là, et la pauvre dame qui tient cette boutique est complètement terrorisée. À la fin, Desnos furieux dit « Mais qu'est-ce que vous attendez pour appeler la police ?» Parce que c'est une façon pour eux de s'affronter à l'autorité. Donc, on est dans cette grande période de révolte, et Desnos va commencer à être attiré par les coïncidences étranges de la vie. Il va les formuler plus tard dans ses poèmes, mais déjà, il y a, dans sa façon d'associer les choses, un esprit, on pourra dire, surréaliste avant la lettre.
Je suis passé dans une rue étrange où des enfants blonds complissaient leur lange. À la porte d'un restaurant, un écriteau était collé. Ici, on peut apporter son manger. À la porte d'un hôtel meublé, un écriteau était collé. Ici, on peut apporter son amour.
Ces longues fleurs qui éclatais-je à mon entrée. Chaque lampe se transfigurais-je en œil crevé, d'où coulais-je des vins plus précieux que la nacre et les soupirs des femmes assassinées. Les belles mourus d'amour et les glands, tous les glands tombais-je dans les ruisseaux. La grande cathédrale se dressais-je jusqu'au bel œil, l'œil de ma bien-aimée. Il connus-je des couloirs de chair. Quant au mur, il se liquéfiais-je, et le dernier coup de tonnerre fis-je disparaître de la terre tous les tombeaux.
Sur les tempes, le père a deux virgules. Il sait jouer du clairon. Vous pourrez lire son nom sur les murs des cellules des casernes d'Afrique. Pour exciter les mâles, après dîner dans les rues transversales, la mère rattache sa jarretière. La fille est bonne à tout faire chez un vieux monsieur. Et maquillée, le fils, dans les bars clandestins à l'entour de la Madeleine, du soir au petit matin, erre comme une âme en peine. Il déjeune tous les jours dans cette famille. Il y boit tous les jours la même camomille. Il y mange tous les jours de la cuisine bourgeoise.
J'étais parti au 109e régiment d'infanterie à Chaumont au début de 1920. Benjamin Perret devait me tenir au courant des aventures d'Ada. Il le fit loyalement, non sans une certaine imprudence. Il m'envoyait d'immenses enveloppes recouvertes d'inscriptions obscènes et antimilitaristes, ce qui eut pour effet de me rendre rapidement suspect à des officiers devant lesquels je n'avais pas pour accoutumé de m'humilier. Au reste, ces enveloppes confirmaient l'opinion que ces gens s'étaient faites de moi et que ma conduite confirmait chaque jour. Au bout de quelques mois, la situation était devenue intenable pour moi. Il me fallait à tout prix partir si je voulais éviter une catastrophe que tous préparaient, depuis l'adjudant jusqu'au colonel. On demanda des volontaires pour le Maroc. Je me présentai. Je fus accepté. Le soir même, je partis en permission pour Paris. Mon premier soin fut de revoir Perret. Il sembla m'accueillir sans grand plaisir et la demande que je lui fis de me présenter à ses nouveaux amis ne l'enchanta guère. Il me donna cependant rendez-vous à 5 heures au coin de la rue Richelieu et des boulevards pour ensuite aller à Certa. Il n'y vint pas. Vers 5h30, las d'attendre, je me rendis dans le bar du passage de l'Opéra. Dans le fond, autour d'une table ronde, un groupe de consommateurs, presque tous jeunes, étaient assis. Perret était parmi eux. Cette espèce de trahison me causa une profonde déception. Je m'assis à une table éloignée et j'attendis, en les observant, que Perret s'aperçut de ma présence. Il ne tenait pas du tout à le faire. Ce ne fut que plus tard que j'appris en quelle mauvaise estime il était tenu. Sa timidité, qui était grande, le faisait passer pour bête, ai-je dit. Les membres du groupe exerçaient facilement sur lui les uns leur indifférence, les autres leur cruauté, leur esprit de mystification. Je les observais de loin, essayant de mettre un nom sur chacun de ces visages. Enfin, las d'attendre, je m'approchai et frappai sur l'épaule de Perret. Il me présenta sans trop de mauvaise grâce, mais assez pour que la glace ne fût pas rompue et que je me trouve horriblement gêné. Il y avait là, ce soir-là, Breton, Aragon, Tristan de Sarah, Rigaud, Ribemont de Seigne et 2 visiteurs, Sandrard et Radiguet. Mon uniforme impressionna, semble-t-il, désagréablement l'assistance. De mon côté, Sandrard, qui agitait son moignon, et Radiguet, le monocle vissé à l'œil, me causait un malaise extrême. Radiguet assumait déjà cet air de fausse élégance, exempte de toute distinction, qui le faisait ressembler à un gigolo enrichi dans le vagabondage spécial et qui s'apprête, comme les courtisanes de jadis, à mettre une particule à son nom. Breton parlait. Il était très maigre, et ses lunettes d'écailles aidant ressemblaient à s'y méprendre à Harold Lloyd. J'ai gardé le souvenir de quelques-uns de ses propos. « Je ne comprends pas, disait-il à Sandrard, que vous vous obstiniez dans cette attitude littéraire et que vous ne soyez pas des nôtres. » Et un peu plus tard, « Celui d'entre nous qui est le plus dada, c'est Éluard. Quand on lui dit « Dada, c'est idiot », il répond « Mais oui, dada, c'est idiot ». Vers 7 heures, chacun s'en alla. Aragon vers son hôpital, Sandrard avec Radiguet, et nous restâmes Breton, Tzara, Perret et moi. Vexé, gêné, furieux même après Perret, je n'avais pas pu prononcer un mot. Nous dînâmes tous les quatre dans un restaurant bon marché du passage de l'Opéra. Dîner sinistre. Je ne pouvais dire que « évidemment » et c'était tout. J'imagine que ce soir-là, j'eus l'air d'un parfait imbécile. Sarah faisait des réflexions scatologiques sur les femmes qui passaient. Breton parlait. Je me souviens encore de ce propos. Il y a quelque chose de curieux. Vous connaissez ce jeu qui consiste à mettre des mots découpés dans un journal, dans un chapeau, et en les tirant au sort, à les écrire les uns à côté des autres. Eh bien, quand c'est Frankel qui est incapable d'écrire, qui tire les mots, ça ne donne rien. Et c'est pour chacun dans la mesure de ce qu'il écrit. Évidemment, évidemment, c'est tout ce que je pouvais dire. Enfin, ce dîner prit fin. Nous nous quittâmes sur le boulevard. Breton et Tzara partirent d'un côté. Perret et moi, nous nous engouffrâmes dans un cinéma, où Charlot Patine me fit oublier la gêne de cette soirée. Peu de temps après, je m'embarquai pour le Maroc, où dans une quasi-solitude, je perdis le goût de toute chose littéraire et artistique. C'est à mon retour en 1922 que commencèrent mes véritables relations avec ceux que j'avais si malencontreusement rencontrés ce soir de printemps 1921. Thank you.
Steve Sheehan, Aouham, pour évoquer le Maroc d'où revient Robert Desnos après une année et demie de service militaire. J'en profite aussi pour donner les crédits des gens qui jouaient sur les morceaux, les textes précédents. Il s'agissait du Cirque Plume avec un titre qui s'appelle Récalcitron et de Ed Motta qui chantait une valse au beurre dans un gros melot quasi français qui ne serait pas désavoué par Robert Desnos. Voilà, donc Desnos, évidemment cette année passée à l'armée n'est pas faite pour le rendre moins rebelle, au contraire, hein, il se paye quelques semaines de mitard. On va passer assez vite sur ce séjour du Maroc dans lequel il s'ennuie profondément. Et finalement, quand il revient, c'est là que va se nouer véritablement son amitié avec le groupe Dada et les surréalistes. On entend bien entendu que ça ne s'était pas passé simplement dans le premier contact. Mais là, il va commencer, et très influencé par les premiers textes qu'il a entendus ou qu'il a lus, il va commencer à changer complètement son fusil d'épaule. Il va garder de sa manière d'écrire l'alexandrin parfois, mais il va aussi explorer toutes sortes de formes du langage. Certainement, c'est un de ceux qui va le plus loin parmi les surréalistes. Alors évidemment, il s'amuse à relever, comme le font tous, des slogans dans la rue. Il observe par exemple que il voit par exemple deux curés accoudés à un balcon et sous lequel apparaît l'écriteau piège en tout genre, voilà qui fait son miel, hein. Ou encore un train ne peut partir que les portes fermées, qu'il considère comme un des meilleurs alexandrins qui a été écrit. Il est certainement un siècle avant l'inventeur du langage texto, puisqu'il écrit par exemple des poèmes avec les mots éphémères écrit avec F, M et R, ou F-I-J, F-I-J, etc. Les pensées, il écrit ça, les P-A-N avec un C un peu plus loin, décédé avec les lettres. Enfin, tout ça n'est pas nouveau pour lui. On a entendu dans d'autres textes un petit peu avant ses jeux de langage, sa façon de casser les structures du langage. Il va essayer de se trouver, il commence à travailler auprès de Jean de Bonnefond, qu'il emploie comme secrétaire. Toute cette époque se passe à aller chercher, on imagine bien ces jeunes de 20-22 ans qui cherchent à trouver des boulots et qui cherchent aussi à se faire connaître dans le milieu littéraire, et en même temps la hargne extraordinaire des gens de Dada qui s'amusent à organiser provocation sur provocation.
Au mocassin le verbe. Tu me suicides si docilement. Je te mourrai pourtant un jour. Je connaîtrai cette femme idéale et lentement je neigerai sur sa bouche. Et je pleuvrai sans doute, même si je fais tard, même si je fais beau temps. Nous aimer si peu nos yeux, et s'écroulerait cette larme sans raison, bien entendu, et sans tristesse, sans.
Isabelle rencontra Marie au bas de l'escalier. « Tu n'es qu'une chevelure, lui dit-elle.
Et toi, une main ?
Main toi-même, omoplate.
Omoplate ? C'est trop fort, espèce de sein.
Langue, dents, pubis.
Œil.
Cils, aisselle, rein.
Gorge, oreille.
Oreille, moi ? Regarde-toi, narine.
Non, mes vieilles gencives.
Doigts.
Con.
Maudit, soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne, dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père.
Est-ce que Robert Desnos pensait à ses propres parents dans cette malédiction? On ne sait pas. Je ne pense pas, parce qu'il a, par la suite, ses rapports vont s'adoucir. Mais en tout cas, il a une charge de révolte absolument extraordinaire à ce moment-là. Il participe à tous les mauvais coups, entre guillemets, des surréalistes. Hein. Ils vont, par exemple, soutenir les pièces de Raymond Roussel, qui est un drôle de personnage, une sorte de dandy que les surréalistes adorent. Raymond Roussel a écrit des pièces qui n'ont aucun succès, mais comme c'est un homme très riche, il fait jouer ses pièces, et ce sont des pièces à scandale, parce que lui, à sa manière aussi, est un petit peu surréaliste. Et voilà comment s'illustre par exemple Desnos. Il va à une de ses représentations, évidemment beaucoup de gens de bon ton qui sont là crient au scandale devant la pièce, et alors que les surréalistes applaudissent à tout rompre, et quelqu'un se tourne vers Desnos, en disant ah, vous faites certainement partie de la claque. Et Desnos se retourne vers le type en disant, et vous êtes la joue, et vling, il envoie une grande tarte dans la figure. Alors Desnos est ce personnage très colérique, capable de s'affronter à beaucoup plus fort que lui, sans aucun calcul préalable, simplement parce qu'il estime qu'il défend une idée, il défend une vérité, et bien il ira jusqu'au bout pour la défendre. Donc Desnos un petit peu commence à publier, enfin en tout cas à écrire et à faire paraître dans les revues surréalistes des textes comme de l'eau un peu, de la façon dont on vient d'en entendre quelques-uns. Il faut peut-être citer aussi la considération qu'il suscite très vite auprès d'André Breton et des autres surréalistes, puisqu'il a une espèce de facilité à écrire et à inventer qui va très vite fasciner tous les autres. Alors, ils vont commencer à faire... tout le groupe surréaliste s'intéresse beaucoup à l'inconscient, c'est quelque chose qui est un trait commun à tous ces gens. Freud est une découverte, hein. Breton le place très haut, Freud ne place pas Breton très haut, mais par contre, eux sont fascinés par cette découverte que, l'inconscient est une ressource absolument extraordinaire pour l'invention poétique. C'est un petit peu la grande chose qu'ont apporté les surréalistes. Et Desnos n'est pas le dernier à y participer.
Avec des expériences de sommeil hypnotique.
Voilà, on va y venir. À la suite d'ailleurs d'un hasard, je pense que c'est une histoire, je crois, ça commence parce qu'Éluard était allé chez une voyante ou avait participé à une séance de un peu spirit, quoi. Et en rentrant, alors ça fait rire beaucoup d'ailleurs quand ils en parlent, ça fait rire Crevel et Desnos qui sont là. Et puis Éluard insiste, mais si, essayons. Pourquoi on n'essayerait pas? Et à ce moment-là, se révèle une grande capacité et de Crevel et de Robert Desnos à se mettre eux-mêmes en état d'auto-hypnose et à commencer à donner des phrases, donner des images, des visions.
La vie est une bobine de fil. J'ai eu 13 ans au mois d'avril et je me sens vieillir très vite. Mais on m'appelle ma petite, une petite. On me donne encore des bonbons et je peux entrer au salon. Mais j'ai gardé mes habitudes, je n'aime pas la solitude, car je voudrais rester toujours petite fille. Jouer à la corde dans la cour ou bien aux billes, c'est si bon de désobéir. Ah, cela m'ennuie de vieillir. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. C'est bon. Rose et doux. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. Cela sèche toute la bouche et ça agace les dents. fait rêver d'un rêve ardent et farouche. On oublie tout, on est heureuse, la vie est merveilleuse et droite comme un boulevard en mangeant du papier buvard. Adieu poupée, adieu le son, il va falloir faire des façons. Le mois prochain, je serai vieille, on m'appellera mademoiselle, mademoiselle. On m'emmènera danser au bal, je pourrai s'en faire de mal, mettre du rouge et faire des choses. On me donnera des bouquets de roses, ça m'ennuiera, j'aime pas les fleurs, ni le rouge à lèvres. J'ai mal aux dents, j'ai mal au cœur et j'ai la fièvre. Cette vie est triste à mourir, cela m'ennuie de vieillir. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. C'est bon, c'est bon, c'est rose et doux. J'aime boire de l'encre et manger du papier buvard. Cela sèche toute la bouche et ça agace les dents. Ça fait rêver d'un rêve ardent et farouche. Droite comme un boulevard en mangeant du papier buvard.
Come, dit l'anglais à l'anglais, et l'anglais vient. Come, dit le chef de gare, et le voyageur qui vient dans cette ville descend du train, sa valise à la main. « Come, dit l'autre, et il mange. « Comme, je dis comme, et tout se métamorphose, le marbre en eau, le ciel en orange, le vin en plaine, le fil en six, le cœur en peine, la peur en scène. Mais si l'anglais dit « as », c'est à son tour de voir le monde changer de forme à sa convenance. Et moi, je ne vois plus qu'un signe unique sur une carte. L'as de cœur, si c'est en février, l'as de carreau et l'as de trèfle, misère en Flandre, l'as de pique aux mains des aventuriers. Et si cela me plaît à moi de vous dire machin, potao, mousseline et potiron, que l'anglais dise machin, que machin dise le chef de gare, machin dise l'autre, et moi aussi, machin, et même machin chose. Il est vrai que vous vous en foutez, que vous ne comprenez pas la raison de ce poème, moi non plus d'ailleurs. Poème, je vous demande un peu. Poème, je vous demande un peu de confiture, encore un peu de gigot, encore un petit verre de vin pour vous mettre en train. Poème, je ne vous demande pas l'heure qu'il est. Poème, je ne vous demande pas si votre beau-père est poilu comme un sapeur. Poème, je vous demande un peu. Poème, je ne vous demande pas l'aumône, je vous la fais. Poème, je ne vous demande pas l'heure qu'il est, je vous la donne. Poème, je ne vous demande pas si vous allez bien, ça se devine. Poème, poème, je vous demande un peu. Je vous demande un peu d'or pour être heureux avec celle que j'aime.
Une série consacrée à Robert Desnos sur 4 émissions avec Michel Arbatz aux commandes.
et mes camarades de la brigade d'intervention poétique. J'ai nommé Patrick Vendrin et Yves Flanck qui sont présents ici. Et évidemment, ce qu'on vient d'entendre était dit par Philippe Goudard également, Cécile Combredet, Florence Mouriéras et Claude Maurice ont prêté leur voix pour cette émission. On a laissé Robert Desnos en compagnie du groupe surréaliste auquel il fait forte impression. On parlait de ses premières expériences de sommeil hypnotique. Cette espèce d'aventure de l'esprit et de la découverte de l'inconscient par les surréalistes. Donc ça se multiplie, ces rendez-vous, souvent chez André Breton d'ailleurs.
Desnos est un voyant.
Desnos est un voyant, il le considère, oui, et Desnos, et cette chose va se confirmer par la suite puisqu'il va écrire lui-même des prophéties sur sa propre vie. Mais déjà, on l'interroge, alors ça se passe de cette manière, il s'endort, les autres sont autour de lui, guettent le moindre signe. En général, on lui donne un papier, une feuille de papier, et il commence à écrire. Il écrit des choses, on lui pose des questions. Qui est à côté de toi ? C'est le diable. Enfin, tout ce qui lui passe par l'esprit. Et parfois aussi, il écrit ou il dessine. C'est une expérience très troublante. Il arrive parfois que Desnos, on dirait aujourd'hui, pète un plomb. Il y a une séance, par exemple, de rêve éveillé dans lequel Desnos, sous hypnose, se jette sur un couteau de cuisine et court après Éluard pour lui faire la peau, et tout le groupe n'est pas assez nombreux pour l'arrêter. Une autre fois, c'est moins tragique, mais c'est aussi drôle. Desnos, qui est sous sommeil hypnotique, tout d'un coup se lève, va à la porte, prend la clé qui est sur la porte, sort sur le palier et enferme tout le monde et s'endort de l'autre côté de la porte. Et alors ça dure à peu près, je vous passe les détails pour arriver à sortir de chez Breton. Enfin voilà, donc Desnos développe cette capacité très très étonnante, qui fera dire d'ailleurs à Breton, il est le plus surréaliste de nous tous. Et c'est également ces événements qui commence aussi à inquiéter Breton. Et Breton, d'ailleurs, va décider à un moment de cesser ses séances de rêve éveillé, disant qu'il craint pour la santé de Desnos. Il faut dire que Desnos, à cette époque-là, se donne complètement à cette aventure. Il picole pas mal, hein, il sort aussi tous les soirs, il va faire la fête à Montparnasse. Il y a des photos qui témoignent, d'ailleurs, de l'état d'ébriété avancé de lui et de ses camarades. Voilà, on va donc écouter maintenant un petit texte qui parle de ce rapport très étrange entre le veilleur et le rêveur.
Il est étrange qu'on se réveille parfois en pleine nuit. En plein sommeil, quelqu'un a frappé à une porte. Et dans la ville extraordinaire de minuit, de mi-réveil et de mi-souvenir, des portes cochères retentissent lourdement de rue en rue. Qui est ce visiteur nocturne au visage inconnu ? Que vient-il chercher ? Que vient-il espionner ? Est-ce un pauvre demandant pain et gîte ? Est-ce un voleur ? Est-ce un oiseau ? Est-ce un reflet de nous-mêmes dans la glace qui revient d'un abîme de transparence et tente de rentrer en nous ? Il s'aperçoit alors que nous avons changé, que la clé ne fait plus manœuvrer la serrure de la porte mystérieuse des corps, même s'il n'y a que quelques secondes qu'il nous a quittés, au moment troublant où l'on éteint la lumière.
Ainsi s'achève cette première heure consacrée à Robert Desnos. Vous écoutez le Roman des Poètes, l'émission de la BIP, Brigade d'Intervention Poétique. Il y aura encore trois autres émissions d'une heure consacrées à la vie de ce poète qui est parti de l'autre côté des étoiles le 8 juin 1945. Aujourd'hui, il y avait à l'antenne Claude Frigara, Patrick Vendrin, Yves Flanck, Cécile Combredet, Claude Maurice et Florence Mouriéras, et votre serviteur. Vous pouvez inviter la Brigade d'Intervention Poétique à venir faire éclore des poèmes sur vos lieux de travail, de loisirs ou de paresse.
Et toi, Michel, tu as consacré tout ton album à Robert Desnos il y a déjà quelques temps.
Oui, effectivement. On a d'ailleurs entendu au début ce Quartier Saint-Méry qui est tiré de cet album, qui est toujours d'ailleurs disponible chez tous les bons pharmaciens, qu'on peut aussi commander par mon site. Et puis je voudrais aussi donner des titres de livres de Robert Desnos pour les gens à qui j'espère on a donné envie de le lire. Il y a d'abord quelques textes publiés dans la collection Poésie Gallimard, trois recueils, Destinée arbitraire, Fortune et Corps et biens. Il y a également une très belle biographie qui est parue il y a un ou deux ans, un énorme pavé, mais qui se lit comme un roman, qui est une biographie de Robert Desnos, tout simplement Robert Desnos par Anne Egger. Et je crois que c'est chez Fayard. Également, je voudrais signaler un DVD extraordinaire qui est sorti il y a deux ans, qui s'appelle Inédit, qui a été produit d'ailleurs par la fille d'André Breton, Aube Breton, et qu'on peut trouver. Alors, une adresse très importante, c'est celle du site de l'association des Amis de Robert Desnos, que vous trouverez sur Internet et qui vous aiguillera vers tous les grands trésors de ce poète. Notre prochain rendez-vous, donc, c'est le 22 janvier pour le numéro 2 consacré à Robert Desnos. Bonsoir.